Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Profession philosophe. Mais comment devient-on philosophe? Est-ce une vocation? Est-ce un métier? Comment naissent les idées? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même de celui qui dit oula, le philosophe Luc Ferry. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
C'est une de vos chansons préférées, non, Luc Ferry?
C'était une chanson que ma maman écoutait très souvent, mettait sur le tourne-disque, comme on disait à l'époque. Moi, je suis né en 1951, donc c'est quand même l'après-guerre. C'est une période, c'est Boris Vian, c'est Montand, c'est cette période bénie, si je puis dire, de l'après-guerre. Pourquoi bénie? Parce qu'après ces catastrophes absolues, les gens avaient une envie de vivre et de s'amuser qui était extraordinaire.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette chanson, hormis la Madeleine?
Le phrasé. Elle a le même phrasé que Montand, d'ailleurs, pratiquement. C'est une manière de chanter qui a complètement disparu. Plus personne ne chante comme ça. Et donc, il y a un phrasé qui est typique de cette époque. D'ailleurs, c'est assez curieux, qui est un peu comme quand on entend les actualités des années 40 ou 50. Il y a une voix qui ne ressemble absolument pas à celle d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, voilà, c'est les souvenirs, simplement. Bon, je ne vis pas dans la nostalgie, comme vous savez. Je ne suis pas un philosophe de la nostalgie, mais quand même, on peut pas écarter cette passion qui est la nostalgie. Je dis passion parce qu'on est vraiment passif là. On reçoit. On peut pas l'écarter totalement. Il y a toujours des petits moments de nostalgie quand on, notamment avec la musique évidemment.
Alors on va passer 50 minutes ensemble, Luc Ferry.
Quel bonheur.
On verra la fin. En tout cas, ça donne envie. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie.
Oui,
on va
avec joie.
On va réfléchir à vos influences philosophiques et extra-philosophiques. On va pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts. Et on va réfléchir au rôle que le philosophe que vous êtes peut jouer dans la cité. D'abord, je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Alors, philosophe, ça fait toujours très prétentieux, mais c'est évident ce que je préfère, ayant assez peu de modestie, finalement. Non, je ne suis pas un intellectuel. J'aime pas cette... Pour moi, philosophe et intellectuel, ça n'a rien à voir.
Pourquoi?
Parce que, évidemment, le philosophe est quand même un intellectuel, mais l'intellectuel n'est pas forcément un philosophe. On peut être un intellectuel, on peut être biologiste, mathématicien, sociologue, psychologue, ou même intellectuel médiatique engagé dans la cité, sans avoir un système philosophique, une doctrine philosophique de fond. Est-ce que Spinoza, est-ce que Kant sont des intellectuels? Pas au sens où le sont mes camarades Michel Onfray ou Alain Finkielkraut ou BHL. Donc, je fais vraiment une différence entre les deux. On peut être un intellectuel engagé dans la cité sur des questions politiques, morales, etc. C'est l'archétype de l'intellectuel français depuis Voltaire. Mais Voltaire, pour moi, n'est pas un philosophe, par exemple. C'est un intellectuel.
Donc vous êtes philosophe?
Enfin, en tout cas, c'est quand je serai mort, c'est ce que je voudrais qu'on dise. Qu'est-ce que c'est que la... Enfin, je sais pas si on attaque directement avec des choses aussi lourdes. Mais je pense qu'il y a trois grands axes dans la philosophie. Il y a trois grands. Et chez tous, hein, depuis Parménide jusqu'à Heidegger, pour citer les plus grands, disons de Platon jusqu'à Heidegger, il y a trois grands axes. Il y a un, la question de la vérité, de la connaissance, la théorie de la connaissance. Qu'est-ce que le vrai? Alors, on a des matérialistes, des empiristes, des idéalistes, etc. Toutes sortes de réponses à la question de comment atteindre la vérité. Il y a la question du juste et de l'injuste, donc la question morale et politique. Et puis, il y a la question de la vie bonne pour les mortels, la question du sens de la vie. Je pense que tous les philosophes qui comptent à mes yeux ont traité ces trois questions, y compris Nietzsche et Heidegger, évidemment. Chez Nietzsche, par exemple, la théorie de la connaissance, c'est la généalogie. La morale, c'est la morale de l'immoraliste, c'est la déconstruction des valeurs, c'est la philosophie au marteau. Et la question du sens de la vie, c'est l'éternel retour, l'amour fati. Donc à chaque fois, même chez les grands déconstructeurs, même chez les moins religieux, si je puis dire, des philosophes, vous trouvez toujours ces trois questions. Chez Heidegger, l'analytique du Dasein, la question de l'authenticité, et Gelassenheit, la sérénité qui est, la manière de vivre, et donc, ou la vie bonne pour les mortels, c'est le sage et celui qui atteint pour Heidegger la sérénité. Donc, même chez les plus déconstructeurs, si je puis dire, donc les plus contemporains, vous trouvez toujours ces trois questions.
Alors, rappelez-moi ces trois questions.
La question de la vérité, donc la question de la connaissance. Si vous voulez, l'épistémologie, même, c'est aussi une théorie de la science. La question du juste et de l'injuste, et la question de la vie bonne pour les mortels, qui est déjà la question d'Homère. C'est pour ça que j'adore l'Odyssée, qui est pour moi le premier grand texte philosophique, avec évidemment l'épopée de Gilgamesh, qui est quand même aussi un texte absolument génial. En fait, c'est la question du terrain de jeu, la question des règles du jeu et la question du but du jeu.
Si est-ce qu'on trouve ces trois-là dans votre travail ?
Oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse.
Je dis votre travail, vous avez écrit combien de livres, Luc Ferry ?
Je n'ai pas compté, mais à peu près 170 en comptant les...
170
oui. Je fais que ça.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez des choses nouvelles à dire à chaque fois ou vous essayez de dire la même chose différemment ?
Non. Alors justement, ça c'est un des grands dangers du travail des intellectuels. Plus que d'ailleurs des philosophes, c'est que très souvent, les intellectuels gèrent un fonds de commerce. C'est-à-dire une fois qu'ils ont... vous avez par exemple, je ne vais pas citer de nom, ce serait très désagréable. Et plus les gens ne sont pas là pour discuter avec moi, plus souvent ce sont des amis. Mais vous avez en France beaucoup d'intellectuels pessimistes qui gèrent un fonds de commerce pessimiste de livre en livre depuis 40 ans. J'essaye d'éviter ça. C'est pas par exemple pour ça que je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, donc à des sujets qui sont vraiment très, très nouveaux. Mais évidemment, le fond philosophique, je réinvente pas ce que je pense à chaque livre. Voilà. Mais néanmoins, je travaille sur des sujets qui sont extraordinairement différents. Quand je travaille sur l'histoire du mariage d'amour, quand je travaille sur l'histoire de l'esthétique et des critères du beau, ou quand je travaille sur l'intelligence artificielle, j'ai fait 3 ans de biologie du cancer. Bon, ça rentre aussi dans ma problématique philosophique.
Est-ce que vous vous dites que vous avez produit une philosophie, votre philosophie,
Oui, système, je pense que sur la question de la vérité, je pense que l'histoire et l'autoréflexion sont aujourd'hui l'essentiel, à mes yeux, de la théorie de la vérité. Je pense que sur la question de la morale, on a vécu quelque chose de très important avec l'humanitaire. J'ai beaucoup écrit sur l'humanitaire, j'ai beaucoup d'amitié pour Kouchner. J'ai beaucoup écrit sur l'humanitaire parce que c'est l'extension des droits de l'homme. C'est vraiment la nouvelle morale d'aujourd'hui. Parce que quand vous y réfléchissez de près, quand vous regardez les 156 projets de déclaration des droits de l'homme en 1789, avant que la déclaration française ne soit arrêtée le 26 août 89, qui est une déclaration en fait pour l'essentiel fabriquée par Sieyès d'ailleurs, vous avez en fait affaire à des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que les droits de l'homme n'ont de sens que dans un cadre national, ce qui va caractériser l'humanitaire moderne. À partir d'un livre qui est d'ailleurs génial, qui est la bataille de Solferino d'Henri Dunant, qui est un livre absolument extraordinaire, c'est l'extension des droits de l'homme. Un jour, Badinter m'a dit une chose, je faisais une conférence devant lui et quelques autres personnes évidemment sur l'histoire des droits de l'homme. Et il m'a dit, les premiers droits de l'homme, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Et les deuxièmes, la génération humanitaire, au fond, celle d'aujourd'hui, c'est ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mmh. Et ne laisse pas faire, c'est la lutte contre l'indifférence. Ça, c'est vraiment l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, on a sur ce plan-là quelque chose de nouveau. Et puis, troisième élément sur la question, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Je pense, comme Diderot, que la postérité est notre nouveau Dieu. Voilà, je pense que ce qui donne du sens à nos vies, c'est l'idée de perfectibilité, l'idée de laisser, vous avez un petit garçon qui a 3 ans, l'idée de laisser un monde meilleur à ses enfants, mais pas seulement ses enfants, si on peut à l'humanité entière, si on en a le talent, je pense que ça donne du sens à nos vies. Voilà, je pense que de ce point de vue-là, je suis absolument pas ni stoïcien ni spinoziste. Là, je suis vraiment dans cette logique de la perfectibilité et dans cette logique des générations futures. Je pense que la grande question politique aujourd'hui, c'est quel monde nous allons laisser à ceux qui viennent, à nos enfants, mais Enfin, mes enfants, nos enfants, voilà, c'est pas simplement les miens, c'est les vôtres. Je sais que je préfère les miens aux vôtres et que vous préférez les vôtres aux miens, mais quand je parle évidemment de nos enfants, c'est l'humanité qui vient. C'est pas un petit sujet, c'est pas l'égoïsme familial, c'est vraiment l'universel de l'humanité. Mais médier, si je puis dire, je veux pas dire médiatiser, parce que ça veut dire autre chose en français, mais médier par l'amour qu'on a pour nos enfants.
Alors, vous avez parlé de politique, on va y venir dans un instant, parce que vous avez été aussi ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, de 2002 à 2004. Oui. Vous avez d'ailleurs écrit juste après un livre qui s'appelle « Apprendre à vivre », dans lequel on trouve sans doute le troisième volet de la philosophie telle que vous la définissez.
Oui, exactement.
Mais avant cela, remontons encore dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, j'ai un frère qui est philosophe, Jean-Marc.
Qui
travaille sur l'Europe et qui a beaucoup travaillé avec Jürgen Habermas en Allemagne. Et en fait, comme il a 5 ans de plus que moi, il était évidemment en terminale. Quand je devais être quelque part, j'imagine, en quatrième ou en troisième, je ne me souviens plus, je calcule très mal. Mais il lisait la critique de la raison pure, la préface de la critique de la raison pure qui était au programme, ainsi que les fondements de la métaphysique des mœurs, donc les deux textes de Kant. Et il m'avait dit, tiens, tu devrais regarder ça. Je devais avoir 14 ans, 13 ou 14 ans. Et évidemment, je suis tombé sur la critique de la raison pure avec comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles, ce qui facilite pas vraiment la conversation quotidienne. Et donc, je n'y comprenais absolument rien. Et lui non plus d'ailleurs en vérité, sauf qu'il m'expliquait des choses, mais je crois qu'il comprenait pas tellement plus que moi. Et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a fasciné, c'est que c'était ni de la littérature ni de la science, c'était quelque chose, un genre littéraire entre les deux, et que manifestement ces philosophes parlaient de choses importantes qui nous touchent, mais ils n'en parlaient pas sur le mode ni scientifique ni romanesque. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment... Et je me suis dit, mais il faut quand même que je comprenne, au moins, même si je rejette ça. À l'époque, j'avais plutôt envie d'être du côté de la psychanalyse ou des choses comme ça.
Ah oui.
Mais en fait, j'ai compris que la philosophie, c'était un milliard de fois supérieur. C'était beaucoup plus profond. J'aime beaucoup Freud. Hein. Je ne suis pas comme mon camarade Onfray. J'ai beaucoup d'admiration pour Freud. Je trouve que c'est un type absolument génial. D'ailleurs, Marx aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour Marx. Mais je trouve que les très, très grands philosophes, en particulier Kant et Nietzsche, Homer, pour moi, c'est Homer, Kant et Nietzsche, voilà. Et Heidegger quand même, Heidegger est un salaud, mais c'est un type génial. Et donc, pour moi, c'est les quatre plus grands. Ceux-là me...
Et donc, vous lisez les textes de Kant, votre frère vous initie cette lecture, et quand est-ce que vous décidez d'en faire votre métier, passer les concours?
À ce moment-là, en fait, je me dis, il faut absolument que je comprenne. Après, je vais rentrer à Sancier, donc à la Sorbonne en 68, et je vais tomber sur
deux
profs.
Vous avez votre bac en 68?
J'ai mon bac en 68.
Autant vous dire qu'on vous l'a donné, non? Parce qu'en 68, le bac...
Là, vraiment, alors en 68, pour pas l'avoir, il fallait faire la demande.
Oui, ça
donc. Donc je l'ai eu, voilà. Mais en plus, à l'époque, je lisais le grec et le latin quand même assez couramment, parce que j'avais fait mes études par correspondance, donc j'avais quitté l'école et aussi le lycée.
Pourquoi?
Et donc, parce que mon père était pilote de course, il avait eu un accident de voiture et on vivait dans un village où il n'y avait pas de car, pas de bus, pas de moyen d'aller au lycée. Donc tant que mon père nous conduisait au lycée ou à l'école, on pouvait y aller, mais après, c'était impossible. Voilà, donc je me suis retrouvé à partir de la troisième au CNTE, c'est-à-dire le CNED, l'hôtelier enseignement, ce qui était formidable d'ailleurs. Mais en même temps, ça veut dire que quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'étais quand même assez baroque parce que j'étais pas du tout socialisé, j'étais un vrai barjot pour dire les choses franchement. Je tombe sur deux profs, mais géniaux. Un qui est encore de ce monde, heureusement, qui s'appelle Heinz Wissmann, que vous connaissez sûrement, qui est un type vraiment génial. Et un autre professeur, Jacques Rivelet, qui m'a tout appris et qui est le plus grand pédagogue que j'ai rencontré de ma vie, qui était capable de rendre la logique de l'essence de Hegel, je parle bien de la logique de l'essence, quand même ce qu'il y a de pire au monde, à lire, il était capable de rendre ça clair et passionnant. Donc j'ai eu cette chance d'avoir... Wissmann m'a vraiment donné la passion de la philosophie parce que c'était quelqu'un de tellement séduisant. C'est l'archétype du prof dont on tombe presque amoureux. On se dit, mais attends, il est grandiose, il faut que je sois... Il détient des savoirs que je dois aller trouver. Donc Wissmann m'a tout donné de ce point de vue-là et Rivelet m'a tout appris. Voilà.
Pour le plaisir, voici Hans Wissmann.
L'Iliade est une totalité. C'est une œuvre. Et ce qui fait sa force, c'est qu'elle intègre des éléments les plus hétérogènes pour en faire quelque chose qui dépasse le détail. Et ce qui compte, à mon avis, c'est la puissance de cette totalisation. Et c'est elle qui fait concurrence à l'autre totalisation, qui est la philosophie.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Luc Ferry qui est au micro des chemins ce matin pour la profession philosophe. Et Hans Wiesmann qui parle de l'Iliade. Voilà. C'était à ce micro, à votre place, l'an dernier. Donc Hans Wiesmann, il vous confirme dans votre désir
de dire. C'est Hans Wiesmann en 68, j'ai 17 ans. Et Wiesmann, je ne sais pas par quel miracle, m'aperçoit, voit que je crois qu'il a vu que je ne ressemblais pas aux autres. J'étais ni en cagne, je ne savais même pas ce que c'était qu'une cagne. Bon, et il décide que j'étais son meilleur étudiant et il me décide de m'envoyer en Allemagne. Il me dit, voilà, si vous voulez vraiment faire de la philosophie, il faut partir en Allemagne. Et il faut faire du grec. Donc j'ai fait 15 ans de grec et puis il m'a envoyé en Allemagne, à Heidelberg, où là je rencontre des gens, que des profs comme Gadamer, comme Dieter Heinrich, comme Rüdiger Bubner, des gens merveilleux. J'apprends vraiment l'allemand. À l'époque, je parlais l'allemand quasiment comme le français. Et c'est donc grâce à lui que j'ai pu passer 20 ans de ma vie à traduire Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Adorno, Horkheimer, Cassirer et quelques autres. Je vais y passer 20 ans de ma vie. Ça m'a énormément appris. Ah, donc ça, je regrette pas du tout. Cette période était vraiment géniale. Voilà. Et je chantais et jouais de la guitare classique dans une Kneipe. Et donc tout ça était quand même extrêmement sympathique.
On sent la nostalgie qui pointe son nez. Vous, parallèlement à votre carrière d'enseignant, vous renouez, ou peut-être que vous n'avez-vous jamais rompu avec Kant, vous traduisez les textes de Kant, vous écrivez des livres sur Kant, et vous devenez, est-ce qu'on peut dire kantien, ça a un sens?
Non, ça n'a aucun sens. J'adore Kant, évidemment, mais j'aime Nietzsche, j'aime Heidegger, j'aime Homère. Non, ça, on ne peut pas être kantien, ça n'a aucun sens. Mais la base est absolument géniale. La critique de la faculté de juger, 1790, est un texte absolument génial. Et donc, mais être kantien, ça n'a pas de sens. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contemporain et pas le moderne. Enfin, le moderne m'intéresse comme historien des idées. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, je vous parlais de l'élargissement de la morale universaliste avec la naissance de l'humanitaire. L'humanitaire, il rajoute quelque chose qui est absolument pas dans Kant, la lutte contre l'indifférence et le sentiment. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La révolution de l'amour » sur l'histoire du mariage d'amour. Ça serait pas venu à l'idée de Kant d'écrire quelque chose.
Mais vous avez passé beaucoup de temps quand même avec Kant à traduire. Kant, vous avez traduit combien de textes de Kant?
J'ai traduit justement avec Wiesmann, j'ai traduit la critique de la raison pratique et puis j'ai traduit tous les opuscules, ça tout seul, tous les opuscules sur l'histoire.
Ça fait quand même beaucoup de temps avec Kant pour quelqu'un qui ne se dit pas kantien et plus intéressé par le contemporain.
Oui, mais j'ai traduit Hegel, j'ai traduit Cassirer, j'ai traduit Schelling.
Et pourquoi la traduction d'ailleurs?
Parce que j'avais envie d'être sérieux, c'est-à-dire j'avais envie vraiment de comprendre ces gens-là. Franchement, le seul moyen de les comprendre vraiment, c'est de les lire en allemand. Et comme je lisais l'allemand, puisque j'avais fait mes études en Allemagne, je lisais l'allemand vraiment comme le français. Et puis j'ai vu que les traductions étaient bourrées d'erreurs, bourrées de contresens, bourrées de fautes. Je me suis dit, c'est quand même trop bête. Il faut mettre ça noir sur blanc de manière correcte. Sincèrement, je pense que dans les traductions que j'ai faites, il n'y a pas un seul contresens. J'en suis absolument convaincu. Si vous en trouvez
un, on demandera à un autre expert de vérifier. Voilà.
Mais je crois que vraiment, sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, avec Wiesmann, on a traduit ensemble la critique de la raison pratique, et donc c'était des discussions sans fin. Et après, j'ai traduit Fichte et Schelling. C'est très difficile, mais c'est absolument génial, patient. Et c'est en fait beaucoup plus facile à lire en allemand qu'en français, quand on lit l'allemand, évidemment. Mais c'est infiniment plus clair. Kant est vraiment génial, parce qu'il y a il y a plein de petits mots chez Kant. Vous savez, c'est un philosophe de la réflexion. Donc, constamment, il y a des petits mots. Alors, je peux pas, en allemand, je vous les dirai, ça ne parlera à personne, mais qui indiquent le regard que le type qui écrit a sur ce qu'il est en train d'écrire. Ça, c'est la réflexivité. C'est très important. C'est absolument ce qui manque, par exemple, totalement chez Spinoza. C'est vraiment, chez Kant, c'est constamment quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Il est dans ce que Habermas et Apple appellent la pragmatique. C'est-à-dire, ces contradictions pragmatiques, vous savez, c'est les gens qui oublient de penser leur pensée. Et Kant, il pense sa pensée en permanence et il y a plein de petits mots en allemand qui indiquent le regard qu'il a, encore une fois, sur ce qu'il est en train de penser et d'écrire.
C'est génial. La psychanalyse n'est pas très loin. On dit Kant, pas Kant?
Je veux bien dire Kant. Bon, enfin, Kant, c'est idiot parce que c'est ni allemand ni français. Donc, vous avez
pourquoi
qu'à dire Kant dans ce cas-là.
Emmanuel Kant.
Qui vous parlait, oui. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit Kant parce que en allemand, on dit Kant.
Voilà, Kant a eu lieu votre première télé, c'était en 1985, souvenez-vous.
Oh là là.
C'était apostrophe Bernard Pivot.
Oui.
Ces auteurs, au fond, elles se sont classées différentes. Est-ce que jamais personne s'est considéré comme étant véritablement des auteurs? Vous me dites que vous n'avez pas vraiment changé de voix, c'est vrai, hein ?
Oui, c'est 168. À peu près la même, oui. En revanche, j'ai changé de tête, hélas, mais...
Pourquoi hélas ?
Vous aviez... Attends, j'adore cette phrase de Maître Yoda dans La Guerre des Étoiles. « Quand 900 ans, tu auras moins en forme, tu seras. » C'est une de mes phrases préférées. Et donc, je commence à m'approcher de cet âge canonique. Mais ça me fait rire, parce que, voilà, évidemment, j'ai... énormément changé depuis, parce qu'à l'époque, c'est vrai, j'étais qu'ancien, oui, bien sûr.
Aujourd'hui, alors quand même, vous avez été invité par Bernard Pivot pour parler de la pensée 68, un ouvrage que vous écrivez avec votre collègue Alain Renaud, qui lui aussi a traduit les critiques de Kant. La pensée 68 est un texte qui a fait beaucoup parler de lui, qui vous a propulsé sur la scène médiatique, en tout cas vous êtes allé en parler pour la première fois.
C'est un livre qui ne s'est pas vendu du tout, on a vendu 10 000 exemplaires, ça a été un bide total. Oui, mais enfin, bon, apprendre à vivre, j'ai fait 650 000 exemplaires, donc c'est important. Ça, voilà. L'écho a été très très grand parce que nous avons été les premiers, il y avait peut-être Raymond Aron, mais il n'avait pas écrit là-dessus, il avait écrit l'opium des intellectuels, mais nous avons été les premiers à critiquer, non seulement, à interpréter mai 68, c'est pas une question de critiquer, mais à critiquer l'anti-humanisme de la pensée 68, donc de Derrida, de Bourdieu, de Foucault et Deleuze. Et donc ça a été un coup de pistolet dans un concert, pour parler comme Hegel. Et c'est vrai que ça, pendant un an, je n'ai pas pu donner une conférence où, à l'époque, nous faisions cours à Ulm, à l'école normale supérieure à Ulm. On dirigeait un centre de recherche avec Renaud. Pratiquement, j'ai pas pu y aller pendant un an parce que, à l'époque, les maoïstes, les trotskistes, ils étaient pas vraiment démocrates. Hein, je veux dire, les mecs défendaient l'idée de critique, mais si on les critiquait eux, on était menacé de mort, quoi. Et donc, mais physiquement, je veux dire, c'est pas une blague. Donc pendant un an, je crois que j'ai pas pu mettre le nez dehors pratiquement après la pensée 68, alors que c'est assez drôle parce que Renaud était de gauche plutôt, il votait socialiste, social-démocrate. Moi, j'étais un gaulliste de gauche, donc on n'était pas vraiment des fascistes. Et c'est vrai que dans cette atmosphère maoïste de l'époque, notamment à l'école normale, c'était inimaginable qu'on puisse critiquer Foucault ou Derrida ou Bourdieu. Et moi, je me suis engueulé avec Bourdieu, je me souviens très bien d'ailleurs, à l'école, on s'est vraiment engueulé. Il m'a traité de petit con d'ailleurs, parce qu'il était lui aussi un peu stalinien, mais c'était assez drôle parce qu'il avait écrit un article absolument idiot sur Heidegger dans sa revue Actes de la recherche en sciences sociales. Il avait publié un article pour expliquer que ce que Heidegger appelait la différence ontologique, c'était la lutte des classes, c'était l'angoisse des petits bourgeois qui trouvaient pas un appartement en Allemagne, après la guerre. C'était tellement con, il faut dire les choses franchement, que Bollack et Wissmann justement m'avaient demandé de venir parler à Bourdieu devant une assemblée et d'expliquer que Heidegger c'était pas ça, qu'on pouvait critiquer évidemment Heidegger, que son engagement nazi, Dieu sait que j'en ai parlé, qu'il est indéniable, malheureusement, corruptio optimi pessima, mais en même temps Heidegger était quand même un type génial et la différence ontologique n'avait rien à voir avec la lutte des classes, tout ça était absolument idiot, et donc je l'ai expliqué à Bourdieu, à l'époque je devais avoir 22 ou 23 ans, et il l'a évidemment très mal pris. Et donc il m'a traité petit con. Et il est parti en claquant la porte devant 150 personnes qui étaient quand même un peu éberluées.
50 ans après, vous souscrivez au constat que vous faites dans la pensée 68 ? Vous changez rien ?
Globalement oui, mais avec une grande différence en fait. Ce que j'ai compris après, c'est que en fait ces gens-là ne croyaient pas à ce qu'ils écrivaient eux-mêmes. En fait,
donc ces gens-là, donc Foucault, Derrida
en particulier, Bourdieu c'est autre chose, mais Derrida par exemple. Ouais. Derrida, c'est quelqu'un qui croyait pas à ce qu'il écrivait lui-même. C'était pas des antidémocrates vraiment.
Vous l'écrivez en 85, il faut s'imaginer qu'à l'époque c'était des stars.
C'était les stars absolues, c'était des stars aux États-Unis. Moi, à l'époque, je vais enseigner
toujours,
aux États-Unis. Je me suis marié aux États-Unis, donc je vais enseigner aux États-Unis aussi. Et à l'époque, parler de Foucault, de Derrida et mettre une critique de Foucault et de Derrida dans les départements de littérature comparée, c'est là aussi, c'est suicidaire. Donc, bien sûr. Et donc, à l'époque, en fait, il faut quand même savoir que ces gens-là sont tous des compagnons de route du communisme ou du maoïsme. Il y a aussi ça derrière. Et ce sont des généalogistes, ce sont des gens qui disent d'où parles-tu et non pas qu'est-ce que tu dis.
Donc, c'est politique plus que philosophique, l'origine de vos critiques.
Non, c'est pas exactement ça. Ce que montre le livre, et là-dessus j'ai absolument pas changé, sauf que je serais moins sévère avec eux, parce qu'en fait c'était pas des méchants. Bon. Mais c'était pas des totalitaires. Ils tenaient un discours totalitaire, mais ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Non, ce que montrait le livre, c'était l'influence de la philosophie allemande sur la philosophie française. Foucault est nietzschéen, d'ailleurs il le dit très bien. Deleuze est nietzschéen, il est nietzschéen spinoziste, il n'y a que ça chez Deleuze. Derrida n'est que heideggerien, il n'y a rien d'autre. Bourdieu et Althusser sont marxistes distingué, mais marxiste quand même. Et donc, en vérité, ce qui m'intéressait, moi, ayant fait mes études en Allemagne, c'était de montrer comment cette adaptation française de la philosophie allemande était une adaptation politico-littéraire, ce qui est tout à fait logique dans la tradition française. On a une très grande tradition littéraire, l'Allemagne assez peu, finalement, et on a une très grande tradition de philosophie politique et de sociologie. Et au fond, Bourdieu, c'est un bon exemple. Bourdieu, c'est Marx qui devient à la fois écrivain et sociologue, ce qui est pas le... alors que Marx est un vrai philosophe. Marx est génial, Nietzsche est génial, Foucault et Bourdieu, non. Voilà, il faut... Et Derrida n'est qu'un épigone de Heidegger. Il n'y a pas une idée chez Derrida qui ne soit chez Heidegger. Heidegger est vraiment génial. C'est un salaud, mais c'est un salaud génial. C'est un vrai problème, d'ailleurs.
Oui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça prouve que ça vous préoccupe quand même. Bah, alors,
je viens d'écrire pour Pierre Nora cette semaine un article sur l'engagement nazi de Heidegger, donc je l'ai en tête. Voilà.
On va avancer parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder ensemble.
Avec joie, mais plus bref.
Il faut faire un petit saut dans le temps. Comment est-ce que vous vous retrouvez ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, en 2002?
Alors, je croise le chemin de Dominique de Villepin et très peu, on s'est vu trois fois, simplement parce qu'on avait le même éditeur. Et donc, on se croise comme ça. Et Dominique de Villepin, en 2002, convainc Chirac que c'est une très bonne idée de faire venir des ministres de la société civile qui n'ont jamais fait de politique.
À ce moment-là, vous enseignez
À ce moment-là, je suis prof d'université, j'enseigne. Et donc, Villepin a cette idée de faire venir des ministres de la société civile, Jean-Jacques Ayagon, Francis Maire, moi. Et moi, j'ai évidemment jamais été membre de parti.
Voilà, c'est ça,
parti.
Vous n'étiez pas investi,
non,
engagé
fait,
politiquement.
Même pas un millième de seconde. J'ai jamais été membre d'aucun parti, jamais fait de politique. J'ai toujours été plus ou moins... le seul type pour lequel j'avais appelé à voter, c'était Michel Rocard. Donc j'étais une espèce de gaulliste social-démocrate mou, sans aucun... rien de particulier. Et donc, Villepin convainc Chirac que c'est une bonne idée. Et donc, un vendredi, je reçois, donc en mai 2002, je reçois un coup de téléphone de Villepin qui me laisse un message sur mon répondeur en disant, voilà... le président veut vous parler, il faut que vous le rappeliez très vite, on est en train de composer le gouvernement. Et donc, on voudrait vous proposer un très très grand ministère qui n'a jamais existé, la jeunesse, les universités, la recherche et l'éducation nationale. Et moi, je tombe de ma chaise, évidemment. J'ai jamais parlé de ça avec personne, ni avec lui, ni avec quelqu'un d'autre. Et donc, je vais voir ma femme et je lui dis, mais attends, ils sont malades. J'ai jamais fait de politique. Je sais même pas ce que c'est qu'un chauffeur, un officier de sécurité. Tout ça n'a pas de sens. Bon. Et donc, je m'apprête à refuser. Elle me dit, mais tu es complètement cinglé. Si jamais tu refuses, tu prétends avoir des idées sur l'éducation, tu es passionné par ça. Si tu refuses de mettre tes idées en pratique, t'es nul, quoi. Et donc.
Et pourquoi vous? Vous savez pourquoi vous?
Parce que j'étais à la fois, malgré tout, professeur d'université, parce que j'étais, malgré tout, déjà un philosophe connu en France, et que je m'étais occupé du Conseil national des programmes, que je connaissais le système éducatif très bien, et donc je remplissais les trois cases. Et par ailleurs, j'étais gaulliste, donc plutôt un gaulliste social-démocrate, mais gaulliste quand même, donc j'étais pas incompatible, j'étais pas un ennemi, et donc voilà. Et puis Villepin trouvait il trouvait que j'avais le bon profil et que j'avais le caractère pour, voilà. Et donc ma femme me convainc, Marie-Caroline me convainc d'accepter ça, et j'accepte la mort dans l'âme, parce que j'ai vu Bayrou se planter, j'ai vu Allègre se planter, j'ai vu les catastrophes, et j'ai vu à quel point c'est violent et à quel point c'est atroce, ça fait peur, quoi. C'est comme traverser la Méditerranée par force 10, c'est un truc abominable. Bon, et j'ai vu Bayrou dans les sous-sols du ministère après la réforme de la loi Fallou, jouer au ping-pong à 3 heures du matin aux abris, bon, et à l'air, je vous dis pas. Et donc, comme j'avais vu ces gens-là, que c'était des gens que je connaissais un tout petit peu, extrêmement peu, mais enfin un petit peu quand même.
Donc vous y allez, vous acceptez.
Et donc j'y vais et je me retrouve dans un monde qui est évidemment aux antipodes du mien.
Deux ans
exactement, je suis un des ministres qui est resté le plus longtemps. Et alors, vous voulez que je vous dise un truc, alors, qui est vraiment pas modeste, c'est ignoble ce que je vais dire. Et donc, il y a eu une enquête de la Sofres qui a été faite l'année dernière et qui me met meilleur ministre des 30 dernières années. Donc, ça m'a quand même...
Toutes disciplines confondues,
ouais, meilleur ministre de l'éducation. Ah, oui. Voilà. Juste d'ailleurs devant Jack Lang et Claude Allègre. Bayrou, complètement dans les choux derrière. Et donc, ça m'a quand même mis du baume au cœur, parce que ça a été absolument passionnant, c'était génial, mais ça a été très dur, évidemment.
Il y a quelqu'un qui veut vous poser une question, j'espère que ça vous mettra du bon. Beau moqueur également.
Mon cher Luc, je me souviens que dans notre excellent gouvernement, vous étiez quelques-uns à bien parler l'allemand. Et je me souviens du philosophe qui faisait de sa culture germanique un atout non seulement pour la structure de la pensée, mais aussi pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, dans notre monde des grandes puissances, comment vous, les philosophes qui avez cette langue en commun, parce que c'est le véhicule de votre pensée, comment est-ce qu'on peut essayer de faire qu'on rapproche l'Allemagne et la France, parce que à nous deux, nous sommes continents et nous existons. Donc les questions de survie pour nous passent peut-être par là. Qu'en penses-tu, mon ami ?
Quand Jean-Pierre Raffarin vous pose une question, il vous parle de politique et de relations franco-allemandes. Hein. Ce n'est pas les embrassades amicales.
Oui, mais c'est le meilleur que j'ai rencontré dans la vie politique. C'est vraiment quelqu'un...
Raffarin ?
C'est un type formidable. C'est quelqu'un de bien, c'est un vrai humaniste et c'est un vrai gentil en plus, qui est extrêmement rare dans ce monde. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et encore une fois, c'est un chrétien, mais moi je suis pas croyant du tout, mais c'est un chrétien, pas un cubéni, c'est au vrai sens de l'humanisme chrétien, des vraies valeurs. Je ne l'ai quasiment, je crois, jamais entendu dire du mal de personne. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Oui, il parle de cette question franco-allemande. Il a mille fois raison. Ce qui se passe aujourd'hui, pour parler un peu de philosophie politique, mais vraiment d'actualité, mais pas de politique politicienne qui m'intéresse pas, c'est que l'Europe tout entière, faute d'alliance franco-allemande aujourd'hui, l'Europe tout entière est en train de devenir un sous-traitant des États-Unis et de la Chine, et surtout des États-Unis. Je vais être très clair, toute l'intelligence artificielle aujourd'hui est américaine ou chinoise, c'est la Silicon Valley ou l'Est de la Chine, et nous devenons une colonie des États-Unis. Je vais être très clair, si les États-Unis voulaient aujourd'hui clouer au pilori notre armée et nos entreprises, elles pourraient le faire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Huawei, avec le fabricant de smartphones chinois. Quand Trump a demandé à Google de pas livrer ses services à Huawei, bah ça veut dire que les gens qui ont un portable chinois Huawei, en France comme partout en Europe, il y en a des centaines de milliers, eh bien ces gens-là n'ont plus accès à Gmail, à YouTube, etc., aux services de Google. Donc encore une fois, c'est vraiment pas une question de commerce et d'économie seulement, c'est vraiment une question de souveraineté européenne, et vraiment une question de philosophie politique. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est quoi ? J'ai traduit les textes de Kant sur la civilisation européenne, sur les Lumières. Kant disait déjà, les Lumières européennes, c'est la sortie de l'enfance, de la minorité. La civilisation européenne, c'est à la fois la civilisation de la démocratie, de la liberté, notamment de la liberté des femmes, des droits de l'homme, mais c'est aussi la civilisation de l'État-providence et de la protection sociale. C'est ça qu'on va perdre. Et donc, c'est une question de souveraineté de cette civilisation européenne qu'on est en train de perdre parce que le couple franco-allemand étant en bisbille, nous ne sommes pas capables d'investir ce qu'il faudrait investir dans la troisième révolution industrielle. Les Américains ont tout compris. Ils achètent les cerveaux européens. Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, est français, il est breton. Demis Hassabis, l'équivalent chez Google, est britannique. Et les Américains ont compris que le pétrole de la troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou naturelle. Et donc, ils achètent les startups, ils achètent les cerveaux. Et donc, moi, quand j'étais chercheur au CNRS, j'étais payé royalement l'équivalent de 1600 euros par mois. Quand vous dites à un chercheur au CNRS, génial, c'est pas 1600 euros par mois, mais c'est 1 million par mois. Et c'est pas une question d'argent, c'est aussi le plus beau centre de recherche et la possibilité de recruter qui voulait. Ça facilite les délocalisations. Donc c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc ce que je dirais à mon ami Jean-Pierre Raffarin, c'est qu'en effet, tant que le couple franco-allemand ne sera pas réuni à nouveau, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, Macron et Merkel ne s'entendent pas, on sera absolument incapable de mettre l'argent qu'il faut pour reconquérir notre autonomie, notre souveraineté dans cette troisième révolution industrielle. C'est
Mais
un
là,
vrai grand sujet.
Justement, est-ce que vous vous sentez impuissant aujourd'hui, parce que vous pouvez rien faire, ça vous donne envie de refaire de la politique, ou est-ce que le philosophe que vous êtes a une influence, une manière d'embrasser, de s'engager en fait ?
Plus que si j'étais ministre, parce que quand vous êtes ministre, personne ne vous les écoute et personne ne vous croit.
Ah bon ?
Donc vous avez 80% des gens qui... Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France est divisée en 5 courants politiques. Vous avez l'extrême gauche, l'extrême droite, ce qui reste du Parti Socialiste, ce qui reste des Républicains, plus le centre macronien. Donc vous avez, quand vous êtes dans un gouvernement, mécaniquement, quand le pays est aussi divisé qu'il l'est, vous avez 80% mécaniquement des gens qui considèrent que vous êtes un salaud et que ce que vous dites est forcément faux, parce que vous êtes solidaire de votre famille politique et que vous êtes en bisbille avec les autres. Donc non, on a beaucoup plus de pouvoir d'influence, si je puis dire, avec un très bon livre qui se vend bien qu'avec...
Écrire des livres, c'est ça, c'est la meilleure manière que vous avez de vous engager politiquement pour une cause,
pour l'Europe.
Je ne
cesse de dire à ceux qui veulent m'écouter parmi les politiques, on m'a proposé d'être tête de liste aux européennes jeune du côté de la droite républicaine, j'ai refusé parce que j'ai passé l'âge et l'envie de faire des meetings, mais je n'ai cessé de dire, qui veut l'entendre, que si nous n'avons pas une Europe unie à 10 et pas à 28, 28 c'est une ânerie,
Pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, non ?
J'y étais, mais j'aurais préféré que l'entrée de la Turquie à celle de la Hongrie ou de la Pologne, je suis désolé, mais pourquoi ? Parce que ça avait vraiment du sens. Voilà. Et d'ailleurs, tous les gens intelligents à l'époque étaient pour, hein, que ce soit Juppé, que ce soit Chirac, que ce soit Strauss-Kahn, que ce soit Kouchner, que ce soit Danny Cohn-Bendit, tous ces gens étaient pour l'entrée de la Turquie parce que c'est un pont avec le monde musulman et que c'était un pont qui à l'époque avait du sens. On a renvoyé la Turquie aujourd'hui. N'oubliez pas que la Turquie était pro-israélienne et que c'était une base de l'OTAN. On a renvoyé la Turquie vers l'islamisme radical, on a eu tort de le faire. En revanche, l'élargissement aux pays de l'Est a été une catastrophe. Et on a autorisé, en 1993, avec le traité de Maastricht, on a autorisé, derrière la monnaie unique, qui est une très bonne chose, mais on a gardé le dumping fiscal et le dumping social. L'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Eh bien, ça veut dire que Uber va payer ses impôts en Irlande et qu'on a organisé la désunion européenne. Or, aucun pays d'Europe, ni l'Allemagne ni la France, ne sont capables de mettre les 150 milliards d'euros qu'il faudrait pour qu'on retrouve une autonomie dans la troisième révolution industrielle. Donc, c'est un vrai sujet de souveraineté. Nous sommes déjà une colonie des sous-traitants des États-Unis.
De souveraineté européenne, pas nationale.
Non, européenne. Et moi, je suis pour une Europe unie à 10 ou 12 maximum. On peut se payer la Grèce, ça coûte pas très cher. Et ça a du sens culturellement et historiquement parlant. Mais à 10 ou 12, les 10 ou 12 pays de l'Ouest, on casse pas ce qui existe. On crée un nouveau traité intergouvernemental ou un partenariat privilégié avec les 10 ou 12 pays d'Europe de l'Ouest qui ont en gros les mêmes niveaux économiques et démocratiques. Et on supprime totalement le dumping fiscal et le dumping social.
Quel parti politique propose ça aujourd'hui ?
Personne. C'est pour ça que j'ai pas voté aux européennes.
Donc vous auriez pu vous présenter ?
Oui, mais encore une fois, j'ai pas envie, c'est pas mon métier. Ce qui me passionne, c'est la philo, et je préfère expliquer des choses comme je le fais à votre micro plutôt que de me retrouver dans un ministère.
Alors, vous allez continuer à expliquer.
On m'a proposé X fois, mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'écrire des livres de philosophie.
Alors, vous allez nous expliquer, mais alors cette fois-ci, on va sortir un tout petit peu du registre philosophique. On va aller vers Carnage, le lieu du carnage, Yasmina Reza, adapté ici par Polanski.
Le 11 janvier à 14h30. Suite à une altercation au Brooklyn Bridge Park, Zachary Cowan, âgé de 11 ans et armé d'un bâton, a frappé notre fils, Ethan Longstreet, au visage.
Armé ?
Armé ? Vous n'aimez pas armé ? Michael, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Muni ? Muni d'un bâton, ça va ?
Muni, d'accord. Muni d'un bâton ?
Oui, très bien. Alors, muni ? L'ironie, c'est qu'on a toujours considéré que Brooklyn Bridge Park était sûr. Comparé au Hillside Park.
On a toujours dit le Brooklyn Bridge Park, oui. Le Hillside Park, non.
Oui. Comme quoi, vous voyez.
Ah, merci. C'est gentil.
Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. C'est tellement mieux que de s'emporter et de se monter les uns contre les autres.
Oui. Hein? C'est plutôt à nous de vous remercier.
Ceci étant, je pense pas que nous ayons à nous remercier. Disons que parmi nous, certains ont un peu de savoir-vivre. Voilà.
Oui, une notion que les enfants ne semblent guère avoir intégrée.
C'est sûr.
Enfin, je veux dire le nôtre.
Oui, bien sûr, le nôtre.
Pourquoi cette pièce vous parle tant ? Et donc vous êtes fidèle autant rire, Luc Ferry.
Non, non, Yasmina génial, elle est un être génial. Pour moi, il y a deux très très grands écrivains français. Bon, je laisse de côté Houellebecq parce que j'aime pas ce qu'il fait, mais je reconnais que c'est un très grand écrivain. Donc
c'est ce que tout le monde dit de lui, je crois.
Mais j'aime pas du tout ni son monde, ni ce qu'il écrit, mais bon, c'est quand même un vrai écrivain. Je suis honnête, je le reconnais. Mais pour moi, les deux plus grands écrivains français, c'est Emmanuel Carrère. Donc si vous n'avez pas lu D'autres vies que la mienne, lisez-le d'urgence, c'est vraiment génial. Puis c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a capté le monde actuel de manière vraiment géniale. Et évidemment, Yasmina Reza. Et si vous n'avez pas lu Une désolation de Yasmina Reza, vous n'avez rien lu. Il faut absolument lire ça. C'est vraiment génial. Alors c'est un livre c'est l'histoire d'un vieux grognon qui est hostile au philosophe du bonheur, qui a un fils qui cherche le bonheur. Il trouve ça absurde. Il passe son temps à grogner, mais c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, Yasmina Reza, elle a un sens du temps, ce rapport à la nostalgie, cette idée que le présent qu'on vit, c'est déjà des souvenirs. C'est d'une très grande profondeur, c'est à la fois du champagne et d'une très grande profondeur. Voilà, c'est du Romanée Conti et du champagne en même temps. Voilà, non, c'est pour moi, et très important la littérature, parce qu'au fond, oui, c'est dans ce domaine-là chez des gens comme Philip Roth aux États-Unis, comme Carrère ou Yasmina Reza en France, ou même Houellebecq, encore une fois, j'aime pas ce qu'il fait, mais il est grand. Chez ces gens-là, on voit quelque chose qui me passionne, c'est le fait qu'on est sorti de l'avant-gardisme, on est sorti du nouveau roman qui m'emmerdait à crever, voilà. Je suis désolé, mais Rob Grillet, Nathalie Sarraute, il n'y a rien de plus chiant.
Ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là.
Oui, mais en sortir n'était pas facile. C'est la même chose, sortir de Boulez en musique, j'aime beaucoup Carole Beffa, par exemple, voilà. Mais sortir de Boulez, c'est compliqué. Et donc, il y a eu une espèce de chape de plomb d'avant-gardisme, aussi bien dans les arts plastiques que dans la musique, et surtout dans la musique et dans la littérature, qui était assez atroce. Et ce qui est génial, je trouve, chez des gens comme Philip Roth, ou comme Carrère, ou comme Yasmina Reza, c'est qu'on n'est pas chez Balzac et Stendhal, on n'est pas revenu au 19e siècle. Dans la musique, je dirais la même chose de Stravinsky ou de Ravel, on n'est pas revenu chez les romantiques, donc c'est vraiment de la musique post-moderniste, si je puis dire. Même chose dans la littérature, sont des gens qui parlent de la mort, qui parlent du sexe, qui parlent de la vieillesse, qui parlent de l'amour, comme on n'en parlait pas chez Stendhal et Balzac, que par ailleurs j'adore, mais qui sont... Voilà, et donc ils ont inventé...
Ça veut dire que la littérature
post-avant-gardisme, elle est plus...
peut dire des choses que la philosophie ne dit pas. Quelle distinction
elle
vous faites entre
chose,
les deux?
Elle dit la même chose. Elle dit exactement la même chose. L'Odyssée d'Homère dit la même chose que ce que diront les stoïciens. Le romantisme, Hölderlin et Novalis disent la même chose que le jeune Hegel ou Fichte. Mais en même temps...
C'est une vraie question. Est-ce qu'ils disent la même chose?
Ils disent exactement la même chose, bien sûr. Et les classiques et les romantiques, Bach et Kant, c'est la même chose pour moi. Ils disent la même chose, sauf que l'immense avantage de la musique et de la littérature sur la philosophie, c'est que c'est touchant presque au sens matériel du terme. Voilà. Et donc,
pourquoi la philosophie émeut-elle si peu, finalement?
Parce que son registre n'est pas du tout démonstratif, mais il est quand même argumentatif. Et le registre argumentatif n'est pas un registre séduisant. Quand vous voulez séduire un homme ou une femme, c'est assez peu, finalement, le registre argumentatif que vous utilisez.
Ça dépend. On vient de faire une série sur Eric Rohmer, je peux vous dire que la démonstration des arguments...
C'est pas le film le plus drôle non plus.
Quand ce sont des arguments de séduction, ça peut fonctionner.
Non, mais vous pouvez utiliser la vérité comme séduction, évidemment. Et c'est ce que fait Socrate. Mais vous savez très bien, je vais dire une banalité, que Socrate utilise toutes les armes des sophistes. Et donc vous avez, depuis le Gorgias de Platon, vous avez deux discours qui sont évidemment en compétition permanente jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un discours sophistique dont la finalité n'est pas la vérité mais la séduction, et c'est un discours poético-séducteur, et vous avez le discours argumentatif de la philosophie dont Nietzsche dit très bien, en critiquant dans le cas Socrate, que sa finalité n'est pas la séduction mais la vérité.
Donc la philosophie n'est pas faite pour séduire, on ne séduit pas avec
vraiment,
la philosophie.
Non, on peut séduire avec la philosophie, parce qu'on peut dire des choses intelligentes. Moi, j'ai passé ma vie à toutes les femmes que j'ai séduites, c'est avec la philosophie. Mais
vous voyez.
Je sais très bien que j'en fais un usage évidemment sophistique. Et puis, je fais pas que ça. Et pas tout le temps. Vous n'avez pas passé un dîner uniquement. Mais c'est vrai que, voilà, les femmes de ma vie, elles se sont passionnées aussi pour les idées. Évidemment qu'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant chez Socrate, quand il dit des choses fortes. D'ailleurs, tous les jeunes gens qui sont autour de lui l'adorent. Bon. Mais néanmoins, c'est deux discours sont en compétition, et l'avantage du discours littéraire, c'est qu'il nous parle, tandis que, franchement, attendez, excusez-moi, mais vous lisez La logique de l'essence, moi j'ai lu La logique de l'essence, ligne à ligne, et en entier, franchement, dans un dîner en ville, vous êtes mort.
Oui, mais un aphorisme de Nietzsche, bien écrit, drôle, et plein d'affect.
Mais parce que vous êtes justement, là vous trichez, vous êtes justement dans une philosophie littéraire.
Ben voilà.
Mais
ben
évidemment.
C'est peut-être de la triche, surtout pour montrer que la frontière entre les deux est très poreuse.
Prenez le début de la critique de la raison pure, et je vous garantis que là, c'est vraiment pas littéraire. Quand vous tombez sur comment les jugements synthétiques, a priori, sont-ils possibles, comme je vous disais tout à l'heure, ça facilite pas la conversation.
Et vous, votre travail, votre philosophie?
Moi, j'essaye, comme d'ailleurs tous les philosophes d'aujourd'hui, alors là, je renoue avec une tradition qui est finalement celle du XVIIe et du XVIIIe siècle. J'essaye justement d'écrire, voilà, et donc d'être aussi un écrivain. Quand vous regardez les philosophes d'aujourd'hui, que ce soit, je sais pas, Régis Debray ou André Comte-Sponville, par exemple, ce sont des gens qui écrivent. C'est pas simplement...
Des prosateurs, vous voulez dire?
Oui, enfin, ce sont des vrais écrivains. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'écriture et pas simplement un travail d'argumentation.
Et il vous plaît, ce travail d'écriture?
Oui, je pense que c'est très important. Et je pense que, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, c'est très important de... En plus, ce que j'aime, c'est partager les idées les plus difficiles qui soient. Je me souviens d'un jour, par exemple, avec Jean d'Ormesson, qui était un type vraiment... Bah, tout le monde l'aime, évidemment. C'était un homme absolument adorable. Et il m'avait pris dans un coin, dans un dîner, près de la cheminée, après le dîner. Il m'avait dit, voilà, j'ai une agrégation de philosophie, mais j'ai jamais de ma vie compris compris ce que c'était que le schématisme. Je sais que vous savez ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Mais pendant 20 minutes, je vais expliquer le schématisme chez Kant. Et ce que j'adorais, c'était justement partager cette idée avec quelqu'un qui s'y intéresse. Et donc ça suppose un type de langage qui n'est pas le jargon des savants de Molière, qui n'est pas le jargon de Derrida ou de cette époque avant-gardiste, qui correspond au fond à la littérature du nouveau roman qu'on évoquait tout à l'heure. Quand vous lisez Glad, Derrida, c'est à pisser de rire. Voilà, donc c'est vraiment, c'est comique, moi ça me fait vraiment marrer, parce que en fait c'est du Heidegger mis dans du nouveau roman, quoi. Voilà, un truc vraiment abominable, quoi. Donc ce que j'essaie de faire.
On vous fera suivre les lettres qui suivront votre intervention. Oui, c'est ça. Bourdieu, Derrida, vous êtes habitué.
J'ai pas changé d'avis depuis le début. Ça n'empêche pas que c'était.
Comment vous vivez ce rapport à vos détracteurs? Parce que vous êtes régulièrement attaqué dans l'espace médiatique, etc.
Mais qui ne l'est pas, cher ami? Est-ce que Finkielkraut ne l'est pas? Est-ce que
vous citez celui qui l'est le plus? Mais comment vous le vivez?
Est-ce que Onfray ne l'est pas? Est-ce que
vous trois, c'est sûr.
Voilà, qui ne l'est pas? Est-ce que Raphaël Antoven ne l'est pas? Il l'est aussi. Enfin, à chaque fois.
Il est très présent sur les réseaux. Est-ce que vous distinguez complètement votre travail?
Non, j'ai supprimé ça, mais
justement.
Non, c'est pas ça. C'est la seule chose.
Est-ce que vous n'avez pas une réputation qui vous colle à la peau? Est-elle fidèle à ce que votre travail ou pas?
Non, c'est pas ça. C'est simplement que j'ai passé l'âge d'ouvrir des parapluies à chaque fois que j'ouvre la bouche. Voilà, je m'en fous, c'est tout. Ça m'est complètement égal. Je dis ce que je pense. Voilà, j'essaye pas forcément de choquer les gens. C'est pas le but du tout de l'opération. Mais on m'empêchera pas de dire ce que je pense, y compris des grandes têtes molles des années 60. Ça m'est égal. Le seul qui tient vraiment la route, c'est Deleuze, évidemment. Voilà, le seul qui était un vrai philosophe, c'est Deleuze. Et Deleuze, quand on lit son Spinoza, son Nietzsche, même son Kant. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour Deleuze. Et nous avions le même professeur, d'ailleurs, qui était le vieux Alquier. Voilà, donc Deleuze est un vrai historien de la philosophie, à mes yeux, avant d'être un philosophe. Et quand il parle des grands auteurs, il est quand même très très bon. D'ailleurs, Deleuze est en vérité très clair, il est très très lisible aussi. Sur Bergson, sur Kant, sur Nietzsche, il est très clair, il cherche pas, c'est pas un savant de Molière. Donc moi j'ai quand même, je partage pas les idées de Deleuze, mais j'ai évidemment beaucoup d'estime pour lui.
D'habitude, pour cette émission, on diffuse des questions de philosophes. Aujourd'hui, pour vous, Luc Ferry, une question spéciale concoctée par Nicolas Berger.
La question que je pose, c'est pour me répondre à moi-même. Ce qu'il faut pour atteindre le but de résoudre délibérément un grand problème de notre temps.
Et oui, De Gaulle a sa place aussi dans cette émission.
Il est quand même un peu... Bon,
c'est De Gaulle.
Oui, il y a quand même un peu un escalier qui descend quand on regarde De Gaulle aujourd'hui, en passant par Sarko, Hollande et Macron, on est quand même très très loin, quoi.
C'est assez drôle. La question que je pose pour me répondre évidemment à moi-même, dit-il, c'est de résoudre délibérément un grand problème de notre temps. Oui. Le philosophe est-il autre chose que d'essayer de résoudre délibérément un grand problème de son temps?
J'irais volontiers dans ce sens-là. Hegel disait, moi, une phrase qui m'a toujours... vraiment beaucoup plus, parce qu'elle est d'une grande simplicité, d'une grande justesse. La philosophie, disait Hegel, c'est son temps saisi dans la pensée. Ihre Zeit in Gedanken erfasst, son temps ramassé dans la pensée. Et je pense que, d'ailleurs, Hegel s'intéressait beaucoup plus à la religion ou à la politique de son temps qu'au philosophe qu'à Schelling ou Fichte. Donc, il s'y intéressait aussi, mais quand même beaucoup plus, encore une fois, à la culture de son temps, à la culture religieuse et politique. Et de la même manière, j'aime beaucoup mieux la mythologie grecque que la philosophie grecque. La mythologie m'intéresse infiniment plus que la philosophie de Platon ou d'Aristote. Même si, évidemment, je m'intéresse à Platon et Aristote. Donc, oui, je pense que
sur ce rapport entre votre travail et le temps, le présent, en fait.
Je pense qu'il y a deux, pour moi, il y a deux grands traits caractéristiques du temps présent et qui sont absolument fascinants sur le plan philosophique. Le premier trait, c'est ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est l'invention du mariage d'amour, l'invention de la famille moderne et donc quelque chose qui bouleverse le sacré. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice et du sacrilège. C'est ce pourquoi je pourrais mourir ou tuer. C'est très important. L'histoire du sacré, c'est l'histoire des guerres. Ça, c'est, pour moi, c'est le pilier de ma philosophie. L'histoire du sacré, c'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire de ce pourquoi je pourrais sacrifier ma vie ou prendre les armes pour défendre ce que je considère comme sacré. L'histoire du sacré, au fond, il y a trois grandes figures. Il y a Dieu, évidemment, les guerres de religion. La nation, la Deuxième Guerre mondiale fait quand même 60 millions de morts, et puis la Révolution, le communisme, fait en gros 120 millions de morts dans le monde, 70 millions rien qu'en Chine. C'est les trois grandes figures du sacré. Ce que nous vivons aujourd'hui à cause ou grâce à ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, donc cette histoire de la famille moderne, c'est la sacralisation de l'humain. Les seuls êtres pour lesquels je serais prêt aujourd'hui à prendre les armes et à risquer ma vie, peut-être même à la donner, ce sont des êtres humains. Évidemment, mes enfants, mais pas seulement. Si on vous attaquait dans un métro, dans un train, je ne sais pas si j'aurais le courage, J'espère que oui. Mais je sais que je pourrais me battre, je pourrais risquer ma vie pour défendre quelqu'un. Voilà. Même quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Ça, c'est la sacralisation de l'humain. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution que nous vivons, c'est la mondialisation. C'est-à-dire ce que Heidegger appelle le monde de la technique. C'est l'idée que, et ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, comme vous le savez, c'est une volonté qui est définalisée, qui ne vise plus la puissance. Hein. Donc ça, Deleuze a très bien montré que c'est pas la volonté d'avoir du pouvoir. La volonté de puissance, c'est la volonté qui se veut elle-même, c'est la volonté qui veut sa propre intensification. Comme chez Spinoza, voilà, ce qui me renforce me rend joyeux et ce qui m'affaiblit me rend triste. Bon, et donc ça, Nietzsche le reprend à Spinoza, et donc ce que Heidegger voit très très bien, c'est que le monde de la technique aujourd'hui, c'est un monde de l'accroissement du pouvoir des humains pour l'accroissement lui-même.
Tout votre intérêt pour le transhumanisme. Il reste une minute, Luc Ferry, donc
bien
c'est pour
sûr.
Ça que je vous presse
voilà.
à parler
et
de votre travail.
Et ces deux révolutions, voilà, l'aboutissement de ce monde de la technique, de cette deuxième mondialisation, c'est la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire celle du transhumanisme, de l'intelligence artificielle et de la robotique, des biotechnologies. Et là, on rentre dans quelque chose qui est absolument fascinant, qui est plein de promesses absolument géniales et magnifiques, et plein de dangers. Donc c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui, plutôt que, comme la plupart de mes collègues, penser les blouses grises et les plumes sergent-major. C'est ça qui me fatigue aujourd'hui. Il faut absolument s'intéresser au présent et à l'avenir, plutôt qu'à la Troisième République.
Vous avez le choix, on se quitte avec Gabriel Fauré ou Jean-Sébastien Bach ?
Écoutez, évidemment j'aime mieux Bach, et qui est beaucoup plus grand, mais on va prendre Fauré parce que c'est vraiment génial. Cette musique française est géniale et on ne l'écoute pas assez.
Merci Luc Ferry.
Merci à vous. C'est génial. C'est pas Bach, mais c'est quand même vraiment génial. Et en plus, ce que j'aime, moi j'ai fait 20 ans de violoncelle, ce que j'aime dans le violoncelle, c'est, et là on retrouve Kant, alors pour le coup, la musique c'est exactement, Mendelssohn disait romance sans parole.
Ouais.
C'est exactement comme si on racontait une histoire, on voit bien que ça nous raconte quelque chose, c'est comme un langage, mais il n'y a pas de mots, et il n'y a pas d'image. C'est pour ça que c'est l'art à mes yeux de très très loin le plus élevé, beaucoup plus que les arts plastiques, parce que ça nous parle, mais sans mots et sans image. Donc c'est l'art le plus mystérieux qui soit. Et là vous voyez bien que c'est comme un conte de fées, c'est comme une histoire. Un choral de Bach, c'est comme une prière. Voilà. Romance sans parole. Et Kant avait compris ça, Hegel aussi d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est génial. Écoutez cette musique française qui a été occultée par la tradition de Schoenberg, mais qui est vraiment géniale.
Eh bien, la voici. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Allez, un peu de musique en ce jour de fête de la musique.
Connaissez-vous, Adèle, le terme « musiquer » ?
Et non.
Alors c'est un terme inventé par le musicien, compositeur et pédagogue Christopher Small. Disparu en 2011, il a publié plusieurs essais, dont celui-ci qui paraît aujourd'hui en français à la Rue Musicale et qui porte donc pour titre ce néologisme « musiquer » de l'anglais « musicking ». Alors qu'est-ce que musiquer ? Eh bien le mieux est peut-être de vous faire écouter plusieurs sons pour que vous compreniez. Quel rapport y a-t-il entre un orchestre qui s'accorde avant un grand concert classique et ça ?
En fait, j'arrive pas à identifier le son, donc je peux pas vous répondre.
Alors en fait, c'est une musique de supermarché, vous savez, les musiques d'ambiance qu'on entend.
Oui. Là,
alors, quel rapport y a-t-il entre le concert classique, cette musique de supermarché, et puis enfin ça ?
C'est un miracle. qui chante Bohemian Rhapsody en tout cas.
Bravo, vous avez reconnu. Alors même moi, je n'avais pas reconnu. Donc, quel rapport y a-t-il entre une musique d'orchestre, une répétition d'orchestre, une musique de supermarché et un concert pop où tout le monde chante et scande en chœur la même chanson? Eh bien, entre ces trois types d'extraits, il n'y a pas de différence pour Christopher Small, car il s'agit à chaque fois de musique. Facile à dire et à comprendre, vous allez me dire. Et pourtant, on est tous d'accord quand même pour dire qu'entre de la musique classique, un public déchaîné à un concert pop et de la musique d'ambiance, eh bien, il y a de grandes différences. Le public n'est pas le même, l'écoute et l'attention ne sont pas les mêmes, la musique elle-même n'est pas la même. Personne, par exemple, n'osera dire que Bach est une bonne musique d'ambiance ou qu'on peut hurler en chœur ses mélodies alors qu'il est joué à la philharmonie. Alors pourquoi garder encore ce terme de musique pour toutes les rassembler, les désigner, les définir? C'est là où le terme de musiquer intervient, car ce qui intéresse Christopher Small avec ce néologisme, c'est l'expérience même de la musique, l'activité qu'elle implique, l'écoute même diverse qu'elle entraîne, et pas l'œuvre qui d'un seul nom, Bach, Rihanna ou Sheila, impose des préjugés, des hiérarchies, des distinctions entre ce qui serait de la vraie musique et de la soupe. Que se passe-t-il quand on écoute du Bach ou quand on écoute, on peut penser à du Rihanna ou du Sheila ou autre, est-ce qu'on musique comme le dit Christopher Small? Et qu'est-ce que ça veut dire alors musiquer? Eh bien par musiquer, il faut entendre, je cite, une activité par laquelle nous faisons exister un ensemble de relations qui façonnent notre rapport au monde, non pas tel qu'il est, mais tel que nous souhaiterions qu'il soit. Alors avec une telle définition, on pourrait se demander, eh bien quel rapport avec la musique? Pourquoi ne pas faire exister des relations avec d'autres gens pour construire un autre monde à travers par exemple le cinéma, le jardinage, la littérature, les musées, la fête ou les débats? Eh bien pour Christopher Small, seule la musique, en concert, est une performance à laquelle des gens participent ensemble, en même temps, à un endroit précis, nulle part ailleurs dans le monde, et pour la première et pour la dernière fois. Comment la structure d'une salle de concert influence-t-elle notre écoute? Comment construit-on ensemble la signification d'une œuvre musicale? Comment le concert a-t-il quelque chose du rituel avec ses codes, ses usages et ses partitions? Comment chaque représentation est-elle un art de la représentation justement, telle du théâtre, du jeu, du drame? Ou encore, comment chaque interprète donne à entendre un Beethoven à chaque fois unique? Telles sont les différentes facettes du fait de musiquer, c'est-à-dire, je le rappelle, du fait de faire exister un ensemble de relations qui façonnent notre rapport au monde tel qu'on aimerait qu'il soit, c'est-à-dire encore, du fait de donner naissance à un collectif qui dessine alors un nouveau monde. La théorie est bonne et elle marche pour n'importe quel chanteur et chanteuse, mais encore une fois, il n'est question que de Beethoven ou de Bach dans ces pages et dans ce qu'on a entendu. On attend maintenant une telle analyse pour un concert de Rihanna.
Merci Géraldine, c'est passionnant ce concept de musiquer. Moi je me dis qu'on musique un peu tous les jours ici. Hein.
Mais on peut réécouter l'émission, on peut la reproduire pas un instant unique.
Ok, bon bah je vais lire le livre, hein. J'arrêterai de dire des bêtises.
Mais non, lisez Musiquer de Christopher Small, c'est paru à la Rue Musicale, c'est les éditions de la Philharmonie.
En revanche, je vous pique Beethoven, enfin on va le garder pour la désannonce si vous êtes d'accord.
D'accord.
Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son aujourd'hui. C'était Swad Boukarsa. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série des Chemins. On terminera l'année, on terminera la saison autour du thème du soleil. La nuit, j'écrirai des soleils. Ce sera Boris Cyrulnik qui sera au micro des Chemins lundi matin. Et puis, on vous proposera une histoire du bronzage avec Pascal Horry mardi. Camus, on parlera de Camus sous le signe du soleil avec Agnès Piquel. Et enfin, Van Gogh ébloui en compagnie de l'historien de l'art Yann Blanc. D'ici là, ce week-end, vous pouvez réécouter cette série d'émissions qu'on vous a proposé cette semaine sur Éric Rohmer, ce numéro de Profession Philosophe avec Luc Ferry, ça c'était aujourd'hui. Vous pouvez aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des Chemins de la Philosophie anime aussi un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram. Ça fait beaucoup de comptes, alors on vous attend. Vous pouvez donner faire vos remarques et commentaires et on vous répondra. On se quitte donc avec Beethoven et je vous donne rendez-vous lundi à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.